Antoine se plaça sur le palier à un endroit d'où il pouvait voir déboucher les employés de dessous la porte cochère. Il connaissait tous ceux du ministère et les observait dans leur allure, en remarquant les différences que présentait leur mise. Avant d'entrer dans le drame, il est nécessaire de peindre ici la silhouette des principaux acteurs de la division Labillardaire, qui fourniront d'ailleurs quelques variétés du genre commis, et justifieront non seulement les observations de Rabourdin, mais encore le titre de cette étude, essentiellement parisienne. En effet, ne vous y trompez pas, sous le rapport des misères et de l'originalité, il y a employé et employé, comme il y a fagot et fagot. Distinguez surtout l'employé de Paris de l'employé de province. En province, l'employé se trouve heureux. Il est logé spacieusement, il a un jardin, il est généralement à l'aise dans son bureau, il boit de bon vin à bon marché, ne consomme pas de filet de cheval et connaît le luxe du dessert. Au lieu de faire des dettes, il fait des économies. Sans savoir précisément ce qu'il mange, tout le monde vous dira qu'il ne mange pas ses appointements. Si les garçons, les mères de famille, le saluent quand il passe, et s'il est marié, sa femme et lui vont au bal, chez le receveur général, chez le préfet, le sous-préfet, l'intendant. On s'occupe de son caractère, il a des bonnes fortunes, il se fait une renommée d'esprit, il a des chances pour être regretté, toute une ville le connaît, s'intéresse à sa femme, à ses enfants. Il donne des soirées, et s'il a des moyens, un beau-père dans l'aisance, il peut devenir député. Sa femme est surveillée par le méticuleux espionnage des petites villes, et s'il est malheureux dans son intérieur, il le sait, tandis qu'à Paris, un employé peut n'en rien savoir. Enfin, l'employé de province est quelque chose, tandis que l'employé de Paris est à peine quelqu'un. Le premier qui vint après Sébastien était un rédacteur du bureau Rabourdin, honorable père de famille nommé Monsieur Fillion. Il devait à la protection de son chef une demi-bourse au collège Henri IV pour chacun de ses deux garçons, faveur bien placée car Fillion avait encore une fille élevée gratis dans un pensionnat où sa femme donnait des leçons de piano, où il faisait une classe d'histoire et de géographie pendant la soirée. Homme de 45 ans, sergent-major de sa compagnie dans la garde nationale, très compatissant en parole mais hors d'état de donner un liard, le commis-rédacteur demeurait rue du Faubourg-Saint-Jacques, non loin des Sourds-Muets, dans une maison à jardin où son local ne coûtait que 400 francs. Fier de sa place, heureux de son sort, il s'appliquait à servir le gouvernement, se croyait utile à son pays, et se vantait de son insouciance en politique où il ne voyait jamais que le pouvoir. Monsieur Rabourdin faisait plaisir à Fillion en lui demandant de rester une demi-heure de plus pour achever quelque travail, et il disait alors aux demoiselles Lagrave, car il dînait rue Notre-Dame-des-Champs dans le pensionnat où sa femme professait la musique, « Mesdemoiselles, les affaires ont exigé que je restasse au bureau. Quand on appartient au gouvernement, on n'est pas son maître. » Il avait composé des livres par demande et par réponse à l'usage des pensionnats de jeunes demoiselles. Ces petits traités substantiels, comme il les nommait, se vendaient chez le libraire de l'université sous le nom de catéchisme historique et géographique. Se croyant obligé d'offrir à Madame Rabourdin un exemplaire papier vélin relié en maroquin rouge de chaque nouveau catéchisme, il les apportait en grande tenue, culottes de soie, bas de soie, souliers à boucles d'or, etc. Fillion recevait le jeudi soir, après le coucher des pensionnaires, il donnait de la bière et des gâteaux. On jouait la bouillotte à 5 sous la cave. Malgré cette médiocre mise par certains jeudis enragés, M. Logigeois, employé à la mairie, perdait ses 10 francs. Tendu de papier vert américain à bordure rouge, ce salon était décoré des portraits du roi, de la dauphine et de madame, des deux gravures de Mazeppa d'après Horace Vernet, de celles du convoi du pauvre d'après Vigneron. Tableau sublime de pensée et qui, selon Fillion, devait consoler les dernières classes de la société en leur prouvant qu'elles avaient des amis plus dévoués que les hommes et dont les sentiments allaient plus loin que la tombe. À ces paroles, vous devinez l'homme qui, tous les ans, conduisait le jour des morts au cimetière de l'Ouest ses 3 enfants auxquels il montrait les 20 mètres de terre achetés à perpétuité, dans lesquels son père et la mère de sa femme avaient été enterrés. « Nous y viendrons tous, leur disait-il, pour les familiariser avec l'idée de la mort. » L'un de ses plus grands plaisirs consistait à explorer les environs de Paris, il s'en était donné la carte. Possédant déjà Fonds Antony, Arcueil, Bièvre, Fontenay-aux-Roses, Aulnay, si célèbre par le séjour de plusieurs grands écrivains, il espérait avec le temps connaître toute la partie ouest des environs de Paris. Il destinait son fils aîné à l'administration et le second à l'école polytechnique. Il disait souvent à son aîné « quand tu auras l'honneur d'être employé par le gouvernement ». Mais il lui soupçonnait une vocation pour les sciences exactes qu'il essayait de réprimer en se réservant de l'abandonner à lui-même s'il y persistait. Félion n'avait jamais osé prier M. Rabourdin de lui faire l'honneur de dîner chez lui, quoiqu'il eût regardé ce jour comme un des plus beaux de sa vie. Il disait que s'il pouvait laisser un de ses fils marchant sur les traces d'un Rabourdin, il mourrait le plus heureux père du monde. Il rebattait si bien l'éloge de ce digne et respectable chef aux oreilles des demoiselles Lagrave qu'elle désirait voir le grand Rabourdin comme un jeune homme peut souhaiter voir M. de Chateaubriand. Elles eussent été bien heureuses, disait-elle, d'avoir sa demoiselle à élever. Quand, par hasard, la voiture du ministre sortait ou rentrait, qu'il y eût ou non du monde, Félion se découvrait très respectueusement et prétendait que la France en irait bien mieux si tout le monde honorait assez le pouvoir pour l'honorer jusque dans ses insignes. Quand Rabourdin le faisait venir en bas pour lui expliquer un travail, Félion tendait son intelligence, il écoutait les moindres paroles du chef comme un dilettante écoute un air aux Italiens. Silencieux au bureau, les pieds en l'air sur un pupitre de bois et ne les bougeant point, il étudiait sa besogne en conscience. Il s'exprimait dans sa correspondance administrative avec une gravité religieuse, prenait tout au sérieux et appuyait sur les ordres transmis par le ministre au moyen de phrases solennelles. Cet homme, si ferré sur les convenances, avait eu un désastre dans sa carrière de rédacteur, et quel désastre! Malgré le soin extrême avec lequel il minutait, il lui était arrivé de laisser échapper une phrase ainsi conçue. « Vous vous rendrez aux lieux indiqués avec les papiers nécessaires. » Heureux de pouvoir rire aux dépens de cette innocente créature, les expéditionnaires étaient allés consulter à son insu Rabourdin, qui, songeant au caractère de son rédacteur, ne put s'empêcher de rire et modifia la phrase en marche par ces mots « Vous vous rendrez sur le terrain avec toutes les pièces indiquées ». Félion, à qui l'on vint montrer la correction, l'étudia, pesa la différence des expressions, ne craignit pas d'avouer qu'il lui aurait fallu 2 heures pour trouver ses équivalents, et s'écria « Monsieur Rabourdin est un homme de génie ». Il pensa toujours que ses collègues avaient manqué de procéder à son égard en recourant si promptement au chef. Mais il avait trop de respect dans la hiérarchie pour ne pas reconnaître leur droit d'y recourir. D'autant plus qu'alors, il était absent. Cependant, à leur place, il aurait attendu, la circulaire ne pressait pas. Cette affaire lui fit perdre le sommeil pendant quelques nuits. Quand on voulait le fâcher, on n'avait qu'à faire allusion à la maudite phrase, en lui disant quand il sortait « Avez-vous les papiers nécessaires ?» Le digne rédacteur se retournait, lançait un regard foudroyant aux employés et leur répondait « Ce que vous dites me semble fort déplacé, messieurs. » Il y eut un jour à ce sujet une querelle si forte que Rabourdin fut obligé d'intervenir et de défendre aux employés de rappeler cette phrase. Monsieur Félion avait une figure de bélier pensif, peu colorée, marquée de la petite vérole, de grosses lèvres pendantes, les yeux d'un bleu clair, une taille au-dessus de la moyenne. Propre sur lui, comme doit l'être un maître d'histoire et de géographie obligé de paraître devant de jeunes demoiselles, il portait de beau linge, un jabot plissé, gilet de casimir noir ou vert, laissant voir des bretelles brodées par sa fille, un diamant à sa chemise, habit noir, pantalon bleu. Il adoptait l'hiver le carrick noisette à 3 collets et avait une canne plombée nécessitée par la profonde solitude de quelques parties de son quartier. Il s'était déshabitué de priser et citait cette réforme comme un exemple frappant de l'empire qu'un homme peut prendre sur lui-même. Il montait les escaliers lentement car il craignait un asthme ayant ce qu'il appelait la poitrine grasse. Il saluait Antoine avec dignité. Immédiatement après M. Félion vint un expéditionnaire qui formait un singulier contraste avec ce vertueux bonhomme. Vimeux était un jeune homme de 25 ans, à 1500 francs d'appointement, bien fait, cambré, d'une figure élégante et romanesque, ayant les cheveux, la barbe, les yeux, les sourcils noirs comme du jais, de belles dents, des mains charmantes, portant des moustaches si fournies, si bien peignées, qu'il semblait en faire métier et marchandise. Vimeux avait une si grande aptitude à son travail qu'il l'expédiait plus promptement que personne. « Ce jeune homme est doué, » disait Félion en le voyant se croiser les jambes, et ne savoir à quoi employer le reste de son temps après avoir fait son ouvrage. « Et voyez, c'est perlé, » disait le rédacteur à Dubruel. Vimeux déjeunait d'une simple flûte et d'un verre d'eau, dînait pour 25 sous chez Catcombe et logé en garni à 1200 francs par mois. Son bonheur, son seul plaisir, était la toilette. Il se ruinait en gilet mirifique, en pantalon collant, demi-collant, à plis ou à broderie, en boîte fine, en habit bien fait qui dessinait sa taille, en col ravissant, en gants frais, en chapeau. La main ornée d'une bague à la chevalière mise par-dessus son gant, armée d'une jolie canne, il tâchait de se donner la tournure et les manières d'un jeune homme riche. Puis il allait, un cure-dent à la bouche, se promener dans la grande allée des Tuileries, absolument comme un millionnaire sortant de table. Dans l'espérance qu'une femme, une anglaise, une étrangère quelconque ou une veuve pourrait s'amouracher de lui, il étudiait l'art de jouer avec sa canne et de lancer un regard à la manière dite américaine par Bissiou. Il riait pour montrer ses belles dents. Il se passait de chaussettes et se faisait friser tous les jours. Vimeux, en vertu de principes arrêtés, épousait une bossue à 6000 livres de rente, à 8000 une femme de 45 ans, à 1000 écus une anglaise. Ravi de son écriture et pris de compassion pour ce jeune homme, Fellion le sermonnait pour lui persuader de donner des leçons d'écriture, honorable profession qui pouvait améliorer son existence et la rendre même agréable. Il lui promettait le pensionnat des demoiselles Lagrave. Mais Vimeux avait son idée si fort en tête que personne ne pouvait l'empêcher de croire à son étoile. Donc il continuait à s'étaler à jeun comme un esturgeon de chevet, quoiqu'il eût vainement exposé ses énormes moustaches depuis 3 ans. Endetté de 30 francs pour ses déjeuners, chaque fois que Vimeux passait devant Antoine, il baissait les yeux pour ne pas rencontrer son regard. Et cependant, vers midi, il le priait de lui aller chercher une flûte. Après avoir essayé de faire entrer quelques idées justes dans cette pauvre tête, Rabourdin avait fini par y renoncer. Monsieur Vimeux père était greffier d'une justice de paix dans le département du Nord. Adolphe Vimeux avait dernièrement économisé 4 combes et vécu de petits pains pour s'acheter des éperons et une cravache. On l'avait appelé le pigeon Vilhomme pour railler ses calculs matrimoniaux. On ne pouvait attribuer les moqueries adressées à cet Amadis avide qu'au génie malin qui créa le vaudeville, car il était bon camarade et ne nuisait à personne qu'à lui-même. La grande plaisanterie des bureaux à son égard consistait à parier qu'il portait un corset. Primitivement casé dans le bureau Baudoyer, Vimeux avait intrigué pour passer chez Rabourdin à cause de la sévérité de Baudoyer relativement aux Anglais, nom donné par les employés à leurs créanciers. Le jour des Anglais est le jour où les bureaux sont publics. Sûrs de trouver là leurs débiteurs, les créanciers affluent, ils viennent les tourmenter en leur demandant quand ils seront payés et les menacent de mettre opposition sur leur traitement. L'implacable Baudoyer obligeait ses employés à rester. C'était à eux, disait-il, à ne pas s'endetter. Il regardait sa sévérité comme une chose nécessaire au bien public. Au contraire, Rabourdin protégeait les employés contre leurs créanciers qu'il mettait à la porte disant que les bureaux n'étaient point ouverts pour les affaires privées, mais pour les affaires publiques. On s'était beaucoup moqué de Vimeux dans les deux bureaux quand il avait fait sonner ses éperons à travers les corridors et les escaliers. Le mystificateur du ministère, Bissiou, avait fait passer dans les deux divisions Clergeau et la Billardère une feuille en tête de laquelle Vimeux était caricaturé sur un cheval de carton, et où chacun était invité à souscrire pour lui acheter un cheval. Monsieur Baudoyer était marqué pour un quintal de foin pris sur sa consommation particulière, et chaque employé mit une épigramme sur son voisin. Vimeux, en vrai bon enfant, souscrivit lui-même au nom de Miss Fairfax. Les employés, beaux hommes, dans le genre Vimeux, ont leur place pour vivre et leur physique pour faire fortune. Fidèles au bal masqué dans le temps de carnaval, ils y vont chercher les bonnes fortunes qui les fuient souvent encore là. Beaucoup finissent par se marier soit avec des modistes qu'ils acceptent de guerre lasse, soit avec de vieilles femmes, soit aussi avec de jeunes personnes auxquelles leur physique a plu et avec lesquelles ils ont filé un roman émaillé de lettres stupides mais qui ont produit leur effet. Ces commis sont quelquefois hardis. Ils voient passer une femme en équipage aux Champs-Élysées, ils se procurent son adresse, ils lancent des épîtres passionnées à tout hasard et rencontrent une occasion qui malheureusement encourage cette ignoble spéculation. Ce Bissiou était un dessinateur qui se moquait de Dutoc aussi bien que de Rabourdin, surnommé par lui la vertueuse Rabourdin. Pour exprimer la vulgarité de son chef, il l'appelait la place Baudoyer. Il nommait le vaudevilliste Flonflon. Sans contredit, l'homme le plus spirituel de la division et du ministère, mais spirituel à la façon du singe, sans portée ni suite, Bissieu était d'une si grande utilité à Baudoyer et à Godard qu'il le protégeait malgré sa malfaisance, il expédiait leur besogne par-dessus la jambe. Bissieu désirait la place de Godard ou de Dubruel, mais sa conduite nuisait à son avancement. Tantôt il se moquait des bureaux, et c'était quand il venait de faire une bonne affaire, comme la publication des portraits dans le procès Faldoès, pour lesquels il prit des figures au hasard, ou celles des débats du procès de Castaing. Tantôt saisi par une envie de parvenir, il s'appliquait au travail, puis il le laissait pour un vaudeville qu'il ne finissait point. D'ailleurs, égoïste, avare et dépensier tout ensemble, c'est-à-dire ne dépensant son argent que pour lui, cassant, agressif et indiscret, il faisait le mal pour le mal. Il attaquait surtout les faibles, ne respectait rien, ne croyait ni à la France, ni à Dieu, ni à l'art, ni aux Grecs, ni aux Turcs, ni aux champs d'asile, ni à la monarchie, insultant surtout ceux qu'il ne comprenait point. Ce fut lui qui, le premier, mit des calottes noires à la tête de Charles X sur les pièces de 100 sous. Il contrefaisait le docteur Gall à son cours, de manière à décravater de rire le diplomate le mieux boutonné. La plaisanterie principale de ce terrible inventeur de charges consistait à chauffer les poils outre mesure afin de procurer des rhumes à ceux qui sortaient imprudemment de son étuve, et il avait de plus la satisfaction de consommer le bois du gouvernement. Remarquable dans ses mystifications, il les variait avec tant d'habileté qu'il y prenait toujours quelqu'un. Son grand secret en ce genre était de deviner les désirs de chacun. Il connaissait le chemin de tous les châteaux en Espagne, le rêve où l'homme est mystifiable parce qu'il cherche à s'attraper lui-même. Et il vous faisait poser pendant des heures entières. Ainsi, ce profond observateur qui déployait un tact inouï pour une raillerie ne savait plus user de sa puissance pour employer les hommes à sa fortune ou à son avancement. Celui qu'il aimait le plus à vexer était le jeune Labillardère, sa tête noire, son cauchemar, et que néanmoins il patelinait constamment afin de le mieux mystifier. Il lui adressait des lettres de femme amoureuse, signées comtesse de M ou marquise de B, l'attirait ainsi au Jaugras, dans le foyer de l'opéra, devant la pendule, et le lâchait à quelques grisettes après l'avoir montré à tout le monde. Allié de Dutoc dans sa haine contre Rabourdin et dans ses éloges de Baudoyer, il l'appuyait avec amour. Jean-Jacques Bissieu était petit-fils d'un épicier de Paris. Son père, mort colonel, l'avait laissé à la charge de sa grand-mère, qui s'était mariée en seconde noce à son premier garçon, nommé Descoings, et qui mourut en 1822. Se trouvant sans état au sortir du collège, il avait tenté la peinture et, malgré l'amitié qui le liait à Joseph Bridau, son ami d'enfance, il y avait renoncé pour se livrer à la caricature, aux vignettes, aux dessins de livres connus 20 ans plus tard sous le nom d'illustration. La protection des ducs de Maufrigneuse, de Rhétoré qu'il connut par des danseuses, lui procura sa place en 1819. Au mieux avec des Lupeaulx, avec qui dans le monde il se trouvait sur un pied d'égalité, tutoyant Dubruel, il offrait la preuve vivante des observations de Rabourdin relativement à la destruction constante de la hiérarchie administrative à Paris par la valeur personnelle qu'un homme acquiert en dehors des bureaux. De petite taille mais bien pris, une figure fine remarquable par une vague ressemblance avec celle de Napoléon, lèvres minces, menton plat, tombant droit, favori châtain, 27 ans, blond, voix mordante, regard étincelant, voilà Bissieu. Cet homme, tout sens et tout esprit, se perdait par une fureur pour les plaisirs de tout genre qui le jetait dans une dissipation continuelle. Intrépide chasseur de grisettes, fumeur, amuseur de gens, dîneur et soupeur, se mettant partout au diapason, brillant aussi bien dans les coulisses qu'au bal des grisettes dans l'allée des veuves, il étonnait autant à table que dans une partie de plaisir, en verve à minuit dans la rue, comme le matin si vous le preniez au saut du lit, mais sombre et triste avec lui-même, comme la plupart des grands comiques. Lancé dans le monde des actrices et des acteurs, des écrivains, des artistes et de certaines femmes dont la fortune est aléatoire, il vivait bien, allait au spectacle sans payer, jouait à Frascati, gagnait souvent. Enfin, cet artiste vraiment profond, mais pas éclair, se balançait dans la vie comme sur une escarpolette, sans s'inquiéter du moment où la corde casserait. Sa vivacité d'esprit, sa prodigalité d'idées le faisaient rechercher par tous les gens accoutumés au rayonnement de l'intelligence. Mais aucun de ses amis ne l'aimait. Incapable de retenir un bon mot, il immolait ses deux voisins à table avant la fin du premier service. Malgré sa gaieté d'épiderme, il perçait dans ses discours un secret mécontentement de sa position sociale, il aspirait à quelque chose de mieux, et le fatal démon caché dans son esprit l'empêchait d'avoir le sérieux qui en impose tant aux sots. Il demeurait rue de Ponthieu, à un second étage, où il avait trois chambres livrées à tout le désordre d'un ménage de garçon, un vrai bivouac. Il parlait souvent de quitter la France et d'aller violer la fortune en Amérique. Aucune sorcière ne pouvait prévoir l'avenir d'un jeune homme chez qui tous les talents étaient incomplets, incapable d'assiduité, toujours ivre de plaisir, et croyant que le monde finissait le lendemain. Comme costume, il avait la prétention de n'être pas ridicule, et peut-être était-il le seul de tout le ministère de qui la tenue ne fit pas dire « voilà un employé ». Il portait des bottes élégantes, un pantalon noir à sous-pieds, un gilet de fantaisie, une jolie redingote bleue, un col éternel présent de la grisette, un chapeau de bandeni, des gants de chevreau couleur sombre. Sa démarche cavalière et simple à la fois ne manquait pas de grâce. Aussi, quand il fut mandé par des lupeaux pour une impertinence un peu trop forte dite sur le baron de la Billardère et menacé de destitution, se contenta-t-il de lui répondre « vous me reprendriez à cause du costume. » Des lupeaux ne put s'empêcher de rire. La plus jolie plaisanterie faite par Bissieu dans les bureaux est celle inventée pour Godard, auquel il offrit un papillon rapporté de la Chine que le sous-chef garde dans sa collection et montre encore aujourd'hui, sans avoir reconnu qu'il est en papier peint. Bissieu eut la patience de pourlécher un chef-d'œuvre pour jouer un tour à son sous-chef. Le diable pose toujours une victime auprès d'un Bissieu. Le bureau Baudoyer avait donc sa victime, un pauvre expéditionnaire âgé de 22 ans, aux appointements de 1500 francs, nommé Auguste Jean-François Minard. Minard s'était marié par amour avec une ouvrière fleuriste, fille d'un portier qui travaillait chez elle pour Mademoiselle Godard, et que Minard avait vue rue de Richelieu dans la boutique. Étant fille, Zélie Lorrain avait eu bien des fantaisies pour sortir de son état. D'abord élève du conservatoire, tour à tour danseuse, chanteuse et actrice, elle avait songé à faire comme font beaucoup d'ouvrières, mais la peur de mal tourner et de tomber dans une effroyable misère l'avait préservée du vice. Elle flottait entre mille parties lorsque Minard s'était décidé nettement une proposition de mariage à la main. Zélie gagnait 500 francs par an, Minard en avait 1500. En croyant pouvoir vivre avec 2000 francs, ils se marièrent sans contrat, avec la plus grande économie. Minard et Zélie étaient allés se loger auprès de la barrière de Courcelles comme deux tourtereaux dans un appartement de 100 écus au troisième. Des rideaux de calicot blanc aux fenêtres, sur les murs un petit papier écossais à 15 sous le rouleau, carreaux frottés, meubles en noyer, petite cuisine bien propre. D'abord une première pièce où Zélie faisait ses fleurs, puis un salon meublé de chaises foncées en crin, une table ronde au milieu, une glace, une pendule représentant une fontaine à cristal tournant, des flambeaux dorés enveloppés de gaz, enfin, une chambre à coucher blanche et bleue, lit, commode et secrétaire en acajou, petit tapis rayé au bas du lit, 6 fauteuils et 4 chaises. Dans un coin, le berceau en merisier où dormaient un fils et une fille. Zélie nourrissait ses enfants elle-même, faisait sa cuisine, ses fleurs et son ménage. Il y avait quelque chose de touchant dans cette heureuse et laborieuse médiocrité. En se sentant aimée par Minard, Zélie l'aima sincèrement. L'amour attire l'amour, c'est l'abyssus abyssum de la Bible. Ce pauvre homme quittait son lit le matin pendant que sa femme dormait et lui allait chercher ses provisions. Il portait les fleurs terminées en se rendant à son bureau, en revenant il achetait les matières premières, puis en attendant le dîner, il taillait ou estampait les feuilles, garnissait les tiges, délayait les couleurs. Petit, maigre, fluet, nerveux, ayant des cheveux rouges et crépus, des yeux d'un jaune clair, un teint d'une éclatante blancheur mais marqué de rousseur, il avait un courage sourd et sans apparat. Il possédait la science de l'écriture au même degré que Vimeux. Au bureau, il se tenait quoi, faisait sa besogne et gardait l'attitude recueillie d'un homme souffrant et songeur. Ses cils blancs et son peu de sourcils l'avaient fait surnommer le lapin blanc par l'implacable Bissieu. Minard, ce rabourdin d'une sphère inférieure, dévoré du désir de mettre sa Zélie dans une heureuse situation, cherchait dans l'océan des besoins du luxe et de l'industrie parisienne une idée, une découverte, un perfectionnement qui lui procura une prompte fortune. Son apparente bêtise était produite par la tension continuelle de son esprit. Il allait de la double pâte des sultanes à l'huile céphalique, des briquets phosphoriques au gaz portatif, des socs articulés aux lampes hydrostatiques, embrassant ainsi les infiniment petits de la civilisation matérielle. Il supportait les plaisanteries de Bissou comme un homme occupé supporte les bourdonnements d'un insecte. Il ne s'en impatientait même point. Malgré son esprit, Bissou ne devinait pas le profond mépris que Minard avait pour lui. Minard se souciait peu d'une querelle, il y voyait une perte de temps. Aussi avait-il fini par lasser son persécuteur. Il venait au bureau habillé fort simplement, gardait le pantalon de coutil jusqu'en octobre, portait des souliers et des guêtres, un gilet en poil de chèvre, un habit de castorine en hiver et de gros mérinos en été. Un chapeau de paille ou un chapeau de soie à 11 francs, selon les saisons, car sa gloire était sa zélie. Il se serait passé de manger pour lui acheter une robe. Il déjeunait avec sa femme et ne mangeait rien au bureau. Une fois par mois, il menait Zélie au spectacle avec un billet donné par Dubruel ou par Bissou, car Bissou faisait de tout, même du bien. La mère de Zélie quittait alors sa loge et venait garder l'enfant. Minard avait remplacé Vimeux dans le bureau de Baudoyer. Madame et Monsieur Minard rendaient en personne leur visite du jour de l'an. En les voyant, on se demandait comment faisait la femme d'un pauvre employé à 1500 francs pour maintenir son mari dans un costume noir et porter des chapeaux de paille d'Italie à fleurs, des robes de mousseline brodées, des pardessous en soie, des souliers de prunelle, des fichus magnifiques, une ombrelle chinoise, et venir en fiacre et rester vertueuse. Tandis que Madame Colville ou telle autre dame pouvait à peine joindre les deux bouts, elle qui avait 2400 francs. Dans chacun de ces bureaux, il se trouvait un employé, ami l'un de l'autre, jusqu'à rendre leur amitié ridicule, car on rit de tout dans les bureaux. Celui du bureau Baudoyer, nommé Colville, y était commis principal et sans la restauration, il lui était sous-chef ou même chef depuis longtemps. Il avait en Madame Colville une femme aussi supérieure dans son genre que Madame Rabourdin dans le sien. Colville, fils d'un premier violon de l'opéra, s'était amouraché de la fille d'une célèbre danseuse. Flavie Minoret, une de ces habiles et charmantes parisiennes qui savent rendre leur mari heureux, tout en gardant leur liberté, faisait de la maison de Colville le rendez-vous de nos meilleurs artistes, des orateurs de la chambre. On ignorait presque chez elle l'humble place occupée par Colville. La conduite de Flavie, femme un peu trop féconde, offrait tant de prises à la médisance que Madame Rabourdin avait refusé toutes ses invitations. L'ami de Colville, nommé Tuilier, occupait dans le bureau Rabourdin une place absolument pareille à celle de Colville et s'était vu par les mêmes motifs arrêté dans sa carrière administrative comme Colville. Qui connaissait Colville connaissait Tuilier et réciproquement. Leur amitié, née au bureau, venait de la coïncidence de leur début dans l'administration. La jolie Madame Colville avait, disait-on, dans les bureaux, accepté les soins de Tuilier que sa femme laissait sans enfant. Tuilier, dit le beau Tuilier, ex-homme à bonne fortune, menait une vie aussi oisive que celle de Colville était occupée. Colville, première clarinette à l'opéra comique et teneur de livres le matin, se donnait beaucoup de mal pour élever sa famille, quoique les protections ne lui manquassent pas. On le regardait comme un homme très fin, d'autant plus qu'il cachait son ambition sous une espèce d'indifférence. En apparence content de son sort, aimant le travail, il trouvait tout le monde, même les chefs, disposés à protéger sa courageuse existence. Depuis quelques jours seulement, Madame Colville avait réformé son train de maison et semblait tourner à la dévotion. Aussi disait-on vaguement dans les bureaux qu'elle pensait à prendre dans la congrégation un point d'appui plus sûr que le fameux orateur François Keller, un de ses plus constants adorateurs dont le crédit n'avait pas jusqu'à présent fait obtenir une place supérieure à Colville. Flavie s'était adressée, et ce fut une de ses erreurs, à des lupeaux. Colville avait la passion de chercher l'horoscope des hommes célèbres dans l'anagramme de leur nom. Il passait des mois entiers à décomposer des noms et les recomposer afin d'y découvrir un sens. Un Corse la finira, trouvé dans Révolution française, vierge de son mari dans Marie de Vigneros, nièce du cardinal de Richelieu, Henrici mei castadea dans Catharina de Médicis, et ses larges nez dans Charles Jeunesse, l'abbé de la cour de Louis XIV, si connu par son gros nez qui amusait le duc de Bourgogne. Enfin, tous les anagrammes connus avaient émerveillé Colville. Érigeant l'anagramme en science, il prétendait que le sort de tout homme était écrit dans la phrase que donnait la combinaison des lettres de ses noms, prénoms et qualités. Depuis l'avènement de Charles X, il s'occupait de l'anagramme du roi. Thuillier, qui lâchait quelques calembours, prétendait que l'anagramme était un calembour en lettres. Colville, homme plein de cœur, lié presque indissolublement à Thuillier, le modèle de l'égoïste, présentait un problème insoluble et que beaucoup d'employés de la division expliquaient par ces mots. Thuillier est riche et le ménage Colville est lourd. En effet, Thuillier passait pour joindre aux éboluments de sa place les bénéfices de l'escompte. On venait souvent le chercher pour parler à des négociants avec lesquels il avait des conférences de quelques minutes dans la cour, mais pour le compte de Mademoiselle Thuillier, sa sœur. Cette amitié consolidée par le temps était basée sur des sentiments, sur des faits assez naturels qui trouveront leur place ailleurs, et qui formeraient ici ce que les critiques appellent des longueurs. Il n'est peut-être pas inutile de faire observer néanmoins que si l'on connaissait beaucoup Madame Colville dans les bureaux, on ignorait presque l'existence de Madame Thuillier. Colville, l'homme actif chargé d'enfants, était gros, gras, réjoui, tandis que Thuillier, le beau de l'Empire, sans soucis apparents, oisif, d'une taille svelte, offrait au regard une figure blême et presque mélancolique. « Nous ne savons pas, disait Rabourdin en parlant de ces deux employés, si nos amitiés naissent plutôt des contrastes que des similitudes. » Au contraire de ces deux frères siamois, Chazel et Paulmier étaient deux employés toujours en guerre. L'un fumait, l'autre prisait, et ils se disputaient sans cesse à qui pratiquait le meilleur mode d'absorber le tabac. Un défaut qui leur était commun et qui les rendait aussi ennuyeux l'un que l'autre aux employés consistait à se quereller à propos des valeurs mobilières, du taux des petits pois, du prix des maquereaux, des étoffes, des parapluies, des habits, chapeaux, cannes et gants de leurs collègues. Ils vantaient à l'envi l'un de l'autre les nouvelles découvertes sans jamais y participer. Chazel colligeait les prospectus de librairie, les affiches à lithographie et à dessin, mais il ne souscrivait à rien. Paulmier, le collègue de Chazel en bavardage, passait son temps à dire que s'il avait telle ou telle fortune, il se donnerait bien telle ou telle chose. Un jour, Paulmier alla chez le fameux Doria pour le complimenter d'avoir amené la librairie à produire des livres satinés avec couverture imprimée et l'engager à persévérer dans sa voie d'amélioration. Et Paulmier ne possédait pas un livre. Le ménage de Chazel, tyrannisé par sa femme et voulant paraître indépendant, fournissait d'éternelles plaisanteries à Paulmier. Tandis que Paulmier, garçon, souvent à jeun, comme Vimeux, offrait à Chazel un texte fécond avec ses habits râpés et son indigence déguisée. Chazel et Paulmier prenaient du ventre. Celui de Chazel, rond, petit, pointu, avait, suivant un mot de Bissieu, l'impertinence de toujours passer le premier. Celui de Paulmier flottait de droite à gauche. Bissieu le leur faisait mesurer une fois par trimestre. Tous deux, ils étaient entre 30 et 40 ans, tous deux assaignés, ne faisant rien en dehors du bureau, présentaient le type de l'employé pur sang, hébété par les paperasses, par l'habitation des bureaux. Chazel s'endormait souvent en travaillant et sa plume, qu'il tenait toujours, marquait par de petits points ses aspirations. Paulmier attribuait alors ce sommeil à des exigences conjugales. En réponse à cette plaisanterie, Chazel accusait Paulmier de boire de la tisane 4 mois de l'année sur les 12 et lui disait qu'il mourrait d'une grisette. Paulmier démontrait alors que Chazel indiquait sur un almanach les jours où Madame Chazel le trouvait aimable. Ces deux employés, à force de laver leur linge sale en s'apostrophant à propos des plus menus détails de leur vie privée, avaient obtenu la déconsidération qu'ils méritaient. « Me prenez-vous pour un Chazel ?» était un mot qui servait à clore une discussion ennuyeuse.